Mon villageon, dis les coustières des vignettes qui viennent nous lipa son castéo. Mon villageon, sur leur tourette, se faille d'ora per le soleil. Les os saloons qui s'y paieraient empressent une couleur de méo. Des carrirettes en carrirettes font le plus galant du tableau. Et le matin, gant du burlestre, admirant la belle campestre, avec un vège de canta. De ma province subre belle, mon villageon est une estelle, dit notre céo plein de clarté.
Cette voix qui vient de dépeindre en provençal le village de Seyon est celle de l'un des derniers paysans poètes provençaux qui, grâce à ses nombreux recueils de poésie publiés et à ses conférences, suscite un regain d'intérêt pour cette langue. Oui, René Rébaud est un personnage, paysan dans l'âme. À 80 ans, il continue l'entretien de quelques lopins de vignes et d'oliviers, par tradition, mais aussi par fidélité à son père, qui, avec sa petite famille, a fait une migration à Seyon pour exploiter en métayage quelques hectares qui, après des débuts laborieux, ont assuré un avenir plus prospère. Mais à l'âge de 40 ans, il trouve le temps et l'inspiration d'écrire des poèmes en langue provençale. Il participe à la rédaction d'articles spécialisés, infatigables. Il étudie dans le détail l'œuvre de Mistral, mais surtout son dictionnaire, et fait des conférences et des lectures pour faire découvrir aux jeunes générations les richesses de cette langue. Il se défend de tout conservatisme et de nostalgie, il milite posément pour une identité provençale ouverte, et comme il tient à le rappeler, la Provence a toujours été une terre de forte immigration et a connu un brassage des populations. Alors, pendant près d'une heure, René Rébaud va nous parler avec ses mots simples de ses origines familiales, de ses parents, de son enfance, de son métier de paysan en Provence verte et de ses multiples passions pour la Languedoc. René Rébaud, bonjour. Depuis de longues années, vous avez deux activités très prenantes. L'une qui consiste à travailler la terre de vos oliviers et de vos vignes, et l'autre est celle de cultiver les mots de la langue provençale sur les pas de Frédéric Mistral, et aussi d'écrire des poèmes que vous lisez très bien, que vous déclamez même très bien en cours de soirée. Aujourd'hui, dans l'après-midi du 10 juin 2015, vous me recevez chez vous, au cœur du village de Seyon-sur-Argence, qui domine la plaine de Saint-Maximin et fait face au mont Aurélien, et la montagne Sainte-Victoire d'ailleurs est pas très loin, elle est juste un peu cachée derrière le village. Alors vous habitez ici depuis quand ?
Oui, alors je suis arrivé, j'étais très jeune encore dans ma première enfance. Je suis né à Vidoban, mais je suis arrivé ici et j'avais 8 ans en 1942. Ça fait déjà un bail, mais je ne suis pas natif du village. Et mes parents non plus, mes parents étaient mon père de la haute Provence, l'arrondissement de Grasse, et ma mère de l'Italie, mais l'Italie, la Ligurie qui est pas loin de Nice. Et près de San Remo, pour être précis, ça s'appelle Taggia, avec deux G. Provence Imperia, mais ça touche San Remo.
Donc votre mère était d'origine italienne.
Oui.
Et votre père était des Alpes-Maritimes.
Des Alpes-Maritimes, ouais. C'est ça.
Et vous êtes né à Vidoban.
Vidoban, étant donné que à la suite de la crise de 1920, on parle beaucoup de crise, mais en 1929, il y a eu une crise terrible. Il était exploitant forestier et plus rien, tout se bradait. Il est descendu à Vidoban, dans la Basse-Provence, pour faire un ouvrier agricole, et en même temps, vu qu'il était très sérieux, on l'avait mis maître de chez quand même. Il était responsabilité de la cave d'un grand domaine qui appartenait à l'époque à l'Institut Pasteur, sur la route de Saint-Tropez, après, dans la plaine, dans la grande plaine dite de la forêt des morts.
Donc il était à la fois forestier et maître de chez.
Oui, ouais. Et vigneron. Forestier, il a commencé en étant chevrier. Oui, parce que c'était des endroits de pays de chèvres, j'allais dire, des pays déshérités, mais qui sont très beaux. Et c'est la vallée de l'Estéron, un petit fleuve qui se jette dans l'Argent, et cette rivière, dans le Var, pardon, cette rivière, elle passe pour être une des moins polluées d'Europe. Oui. Mm-hmm. Elle passe dans des endroits très peu peuplés, très accidentés. C'est là qu'il y a beaucoup de cluses qu'on appelle. dans un périmètre réduit de quelques kilomètres carrés. Il y a 5 ou 6 clues, la clue de l'Estéron, la clue de Saint-Auban, c'est des passages, des sortes de défilés où le petit, la petite rivière l'Estéron s'engouffre. Et c'est un pays mistralien, étant donné qu'il a été chanté par Mistral.
Oui,
Mistral fait monter la langue provençale avec son, un de ses ouvrages qui est un chef-d'œuvre. Voilà, l'épopée d'un pêcheur d'anchois de Cassis, il a fait monter jusqu'au pays du bout du monde de la Haute-Provence.
Alors, on en parlera tout à l'heure longuement de cette langue provençale que vous connaissez fort bien, mais revenons un peu à vos origines. Donc, votre père, il parlait plus le provençal que le français à cette époque, quand il était du côté de Grasse, forestier et maître de chais.
Là, c'était quasiment à 100%. À l'époque, on est quand il est né en 1901, et même lorsqu'il est arrivé à Seillon, il parlait. Il avait un accent par rapport aux gens de Seillon. Par exemple, il avait acheté des terres dans le dite de Lubac, vous savez que c'est très Lubac.
Au nord.
Hein.
Oui, et la Drée, c'est le
sud. C'est le sud. Eh bien, mon père, il disait je vais à Lubac. Et ici, il disait Lubac simplement. Oui. Il y avait une petite différence, mais l'ossature est la même. Oui.
Donc votre père est né en 1901. Que faisaient vos arrière-grands-parents, ses parents de votre père?
C'était des laboureurs, mais ils avaient un cheptel. Mais ils ne possédaient pas de terre.
C'était des métayers
dans une ferme du marquis de la Penne, quelque part du côté le plus jeténier. Depuis 200 ans dans cette ferme, ils sont restés de père en fils 200 ans. Et dans les saisons mortes, mes aïeux étaient aussi, ils avaient des cheptels, comme je vous dis, des bœufs, des vaches, des moutons, des chèvres. Mais dans les saisons mortes, ils étaient spécialistes des fours à chaud. Et lorsqu'on allait parce que j'ai toujours fait un pèlerinage au pays, même je passais mes vacances dans cette région, mon père me disait, tu vois ce pont là, c'est mon grand-père qui a fait la chaux pour fabriquer ce pont, etc.
Et votre mère donc, qui est d'origine italienne?
Ma mère, alors, de la Ligurie. Là, ils avaient, je vous ai dit que les rebours étaient plutôt des prolétaires, mais ils avaient quand même des cheptels et tout, mais ils avaient quelques biens. Puis mon grand-père, peut-être un peu trop noceur ou autre, et puis il m'a tombé dans la maladie, ils ont dû vendre leurs biens. Oui. Bon, mais il nous reste encore quelques biens qu'ils ont abandonnés, des oliviers près de la mer. Oui, alors mon grand-père était cordonnier de son état et écrivain public pour la clientèle.
Oui, il avait déjà un niveau important.
Oui, voilà, il avait. Oui, surtout que l'Italie, par rapport à la France, l'analphabétisme, c'était quelque chose de.
La plupart de la population ne savait pas lire.
Ne savait pas lire. Et même, je vais vous dire une anecdote là-dessus. Ma mère, à 90 ans, pour une histoire d'héritage, on s'est rendu au consulat général d'Italie à Marseille et ils ont été très étonnés que ma mère ne soit pas illettrée. Oui. Après, ils ont dit, là, Napoléon est passé par là. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Peut-être qu'ils avaient créé des écoles. Mais bon. Mmh. Oui. Par rapport aux autres régions, c'était la Ligurie était plus avancée. Sinon, l'Italie en général. Moi, j'ai connu des Italiens. Lorsque j'avais 20 ans, qui venaient pour les saisons ou autres travailler dans les coopératives, je leur parlais italien, ils ne me répondaient pas. Mm-hmm. Ils ne connaissaient que leur dialecte. Ça s'est beaucoup amélioré avec le transitor, les médias et tout. Mais à l'époque, l'Italie, alors là, je n'ai jamais rencontré un Espagnol ne connaissant pas le castillan, la langue mère, mais les Italiens ne connaissant pas le toscan, la madrelingue italienne. Là, alors, c'était les gens.
Un pays pauvre où les enfants n'allaient pas à l'école. Jusqu'encore dans les années. Oui. Alors que votre mère avait.
Alors ma mère, elle était allée. Et ma grand-mère, et par contre, elle se signait. Ma mère disait, elle se tient comme canon des cannes. Elle faisait la croix avec une. Mais mon oncle, mon grand-père maternel, était écrivain public, non pas pour tout le village, qui était assez important, mais pour sa clientèle. On venait. Il faisait toutes les lettres. Ma mère m'a toujours dit. Et les filles sont venues faire les saisons en France.
Voilà, après ce déclin où il y a eu.
Après ce déclin, alors les garçons venaient, mais eux mangeaient les soies et les filles, tandis que ma mère, avec sa sœur aînée, elle, avant que ça tombe en ruine la maison, elle avait fait des études. Elle parlait très bien le français, et alors elle était directrice du personnel. dans une grande magnanerie qui appartenait justement à quelqu'un de Pavia, de Pavie, et que cette magnanerie se trouvait près du Luc, au Canet des Morts, et elle recrutait jusqu'à 200 filles, paraît-il. Oui. Et il venait, c'est là que ma mère. Mais premièrement, avant de faire la magnanerie, à l'âge de 14 ans, déjà avec ma tante l'aînée, en question, mais qui s'appelait Bettina, ils ont fait les fleurs d'oranger pour la parfumerie de Grasse, le jasmin, et voilà. Alors ils venaient faire les saisons et ils ramenaient, eux, les filles ramenaient un bon magot qui leur permettait de vivre aisément. Oui.
De continuer à vivre. Un petit écureuil pendant
la nuit. Oui. Paraît-il qu'elle faisait le minimum de dépenses, mangeait que du café au lait, du pain ou autre, et leur ramenait un magot, quelque chose de très important qui permettait de passer l'hiver très confortablement et tout. Même ma grand-mère, paraît-il que lorsqu'elle allait au boucher, elle se cachait un peu parce que les gens lui disaient, vous avez, dans le dialecte de là-bas, il avait une mahotte, waka, vous avez un malade à la maison que vous allez acheter de la viande, vous la ramenez compte, c'était un luxe.
Hein. C'est un signe d'aisance.
Un signe d'aisance. Alors elle avait un peu, elle y allait un peu en catimini, acheter chez disons, c'était justement un cousin, paraît-il, il s'appelait Lantruya, le boucher qui venait des Alpes de cette région, de la Brigue. Voilà. Mais les origines étaient de Tadj, au bord de mer, mais un aïeul, mon aïeul, le père de ma grand-mère, était un pasteur qui descendait du torrent, d'un village qu'on appelait, qui était une fraction de la Brigue, parce que vous savez que la Brigue a été très étendue, une partie se trouve dans le Pignon, une partie dans les Alpes-Maritimes, et une autre partie dans ce versant sud qui donne au sud, ça donne vers la Méditerranée, du côté de San Remo, et là, on appelle ça une fraction en Italie, c'était une fraction, un hameau de Brigue. Alors c'est ce pays des brigasses qu'ils avaient une fête, c'est la brebis un peu spéciale avec une laine très grossière qu'on appelait les brebis brigasques. Alors ils descendaient, ils ne faisaient pas un gros parcours, mais 2000 mètres d'altitude, ils descendaient dans les orangers faire manger les herbages, et là il a séduit une fille, elle avait 40 ans, il a séduit une fille de Tadja qui était, ils avaient un blason la famille, mais les filles n'ont eu, ma mère disait qu'il n'a eu que la légitima. Il n'a eu que le strict minimum parce que c'était, il y avait le droit d'aînesse, je ne sais pas comment l'expliquer. Et alors, voilà, et paraît-il qu'il avait 40 ans, il en avait 20 ans. Et le Sartre, c'est le tailleur, il était très athlétique, et lui avait dit, tu me fais de la réclame, je te fais le costume gratis. Oui. Voilà, ça, ma mère me l'a toujours raconté.
Donc, elle a rencontré votre père comment?
Oui, alors là, je peux dire, vous voyez, d'emblée, que je ne suis pas né dans un chou. Elle a rencontré mon père au vendange.
Ah,
oui, parce que, en faisant le grenage de Verassois, on leur a dit, mais pourquoi ne feriez-vous pas les vendanges aussi? Alors c'est là qu'il y avait un domaine, le Canet des Morts, c'est à côté de Vidauban, ils ont trouvé cette place-là, dans ce domaine où il y avait pas mal de vendangeurs, c'était 4000 hectolitres, et je me rappelle qu'il y avait un grand dortoir. Et alors elle a connu mon père au vendange, voilà. Voilà. Alors mon père, lorsqu'il a connu ma mère, ma mère avait une famille, il a fallu qu'il aille en Italie rencontrer, et alors c'est ma tante qui l'a reçu à la gare de San Remo avec une photo. C'est pas ma mère qui y est allée. Et ma tante a fait, cette tante qui était un peu instruite, a voulu savoir qui était mon père. Elle a écrit, je pense qu'on disait toujours à la mairie de Vidauban ou à la gendarmerie, je ne sais plus au juste, mais on lui a répondu, elle peut en trouver de plus dandy, de plus riche, de plus honnête, de plus travailleur, elle n'en trouvera pas. Voilà ce qu'on avait répondu. Oui, parce qu'elle a voulu faire, ma mère, elle connaît cet homme au vendage, mais ils ont voulu savoir qui était mon père.